Le texte est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, que soit aussi en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Et moi en eux et toi en moi. Pour qu'il soit accompli dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi, je t'ai connu et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux. Le texte proposé aujourd'hui à notre méditation est en fait la fin d'une prière de Jésus adressée à Dieu son Père. C'est le chapitre 17 qui est la totalité de cette prière. Là, dans le texte proposé à notre méditation, nous nous penchons seulement sur la fin de cette prière. C'est la dernière prière que Jésus adresse à Dieu avant son arrestation. À ce moment, il sait parfaitement qu'il n'en a plus pour longtemps avant d'être trahi, dénoncé, arrêté, jugé et mis à mort par la crucifixion. Il ne cherche pas à fuir. Tout son esprit est tourné vers Dieu. Il prend encore le temps de prier et il ne demande rien pour lui. Il prie pour les autres et plus précisément pour ses disciples. Dans cette prière, il fait d'abord le bilan de son vécu avec son Père, auquel il a été uni, au point de pouvoir dire « Tu es en moi et moi en toi ». Il ne se considère pas comme un être seul, isolé, ni comme un être double. Il est fondu en Dieu et Dieu en lui. Il ne forme qu'une seule et unique personne, mais Jésus formule quand même une prière à son Père pour ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, ce sont ceux qu'il a choisis pour disciples, ses compagnons de la première heure avec lesquels il a tout partagé, avec lesquels il a fondé ce qui deviendra plus tard, après sa mort, le monde chrétien. Je vous l'ai dit, Jésus ne demande rien pour lui alors qu'il sait sa mort prochaine. Mais il formule une demande pour ses disciples, pour ceux qui croient en lui et qui ont donc foi en lui. Il souhaite que comme lui est dans le Père, ses compagnons soient unis en lui afin que tous unis non seulement à lui, soit unis non seulement à lui, mais aussi à Dieu. pas facile à comprendre, et je suis d'accord. Cela semble complexe, et pourtant, c'est tout simple. Jésus est uni à Dieu avec lequel il ne fait qu'un. Si ses disciples sont unis à lui, ils seront automatiquement unis à Dieu. Mais ce n'est pas tout ce dont on parle dans ce texte de Jean. On y parle aussi de l'amour de Dieu, l'amour qu'il a donné à Jésus, de l'amour que Jésus, à son tour, a donné tout au long de sa vie, non seulement à ses disciples, mais de l'amour distribué au fil de sa vie auprès des humains. C'est de cet amour-là, donné sans compter, dont il s'agit. Un amour inconditionnel adressé à tous, irréfléchi car spontané. Cet amour se révèle indispensable pour construire une nouvelle Église qui vivra ses balbutiements avec les premiers disciples. Certes, ils vivront ce démarrage de manière différente selon leur caractère, leur tempérament, leur façon d'envisager les choses, mais tous auront un but commun pour l'édifier, convaincre à partir de l'amour qu'ils sauront faire rayonner autour d'eux. Ces disciples ont un devoir de transmission, celui de délivrer à leurs condisciples un modèle de vie, celui de l'amour de leur prochain. Aimer. L'amour maternel et paternel qui nous inonde et semble plus fort que tout pour son enfant qui vient de naître, l'amour débordant pour ses enfants qui grandissent et qui peut parfois se révéler étouffant, l'amour filial tourné des enfants vers les parents auxquels nous devons tout pour l'éducation qu'ils nous ont dispensée, la patience dont ils ont usé afin de nous conduire vers une vie d'adultes responsables, pour les soins dont ils nous ont entourés et pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin de nous assurer une vie meilleure que la leur. Cet amour qui nous mène à les assister lorsque le besoin s'en fait sentir sur leurs vieux jours. L'amour conjugal pour son conjoint, époux ou compagnon, avec lequel on construit petit à petit, qui est tellement différent de ce que je viens d'évoquer précédemment. Amour où l'on a l'assurance de trouver écoute, réconfort et soutien dans les passages difficiles de la vie et avec lequel on édifie une famille. Aimer peut sembler facile en famille, c'est ce qu'on voudrait croire. Mais non, pas toujours quand il y a des conflits qui naissent. L'amour fraternel que l'on vit dans nos paroisses n'a pas la même intensité que ceux évoqués précédemment. J'ai envie de dire qu'il est plus raisonné, moins viscéral, mais il nous conduit vers un seul être, Jésus et Dieu son Père. Ils n'ont fait qu'un, disait-on au début de cette méditation, car ils ont vécu un amour agapé. Cet amour que nous devrions dispenser avec largesse autour de nous. Sommes-nous capables de construire et dispenser cet amour? Certes, dans le cadre de notre temple, ceci ne suscite probablement pas trop d'interrogations. Mais dès que nous en franchissons le seuil ne sommes-nous pas un peu plus frileux pour distribuer cet amour absolu désiré et pratiqué par Jésus? Sans aucun doute, avons-nous des progrès à faire pour délivrer à notre prochain cet amour qui nous rapprocherait de Dieu. Comme nos ancêtres au temps de Jésus, nous sommes tous différents. Jésus leur a montré la voie à suivre, le chemin à dégager pour mener la construction de l'Église. Ils y sont arrivés malgré leurs différences. À travers les siècles, cette Église s'est étoffée et il y a eu des moments si difficiles. Il y a eu des séparations et des guerres, tout cela au nom de notre Seigneur. Mais cette Église vit encore 20 siècles après sa naissance grâce à la conviction de quelques-uns devenus plus nombreux au fil des ans, et elle s'est diversifiée. Aujourd'hui, nous vivons dans cette Église qui chaque jour s'est agrandie jusqu'à devenir celle que nous connaissons. Il faut qu'elle continue de s'agrandir. Il nous faut continuer à transmettre la foi que nous avons reçue en gardant bien en mémoire que ce ne peut être qu'en dévoilant notre force d'amour pour notre prochain que l'Église grandira. Ceci devrait nous amener à poursuivre en même temps la réflexion entamée la semaine dernière lors d'un temps partage avant le culte et qui est le thème du prochain synode de nos églises, étant sollicitées pour y réfléchir concernant notre Église universelle. Certes, Jésus a été la source de ce qui est notre Église qui a jailli et qu'il n'a probablement pas envisagé aussi diversifiée qu'elle l'est aujourd'hui. Peut-être est-ce finalement une force, cette multiplicité, et ceci nous invite à ne pas la considérer comme divisée ou morcelée ou éclatée. Avec Jésus, poursuivons la construction de cette Église. Il a été pour ses disciples un modèle d'amour du prochain. Ce sont eux qui se sont mis à l'ouvrage pour nous transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est avec foi qu'ils ont œuvré dans cette voie, ne cessant de faire passer le message de génération en génération pour arriver en 2025. Suivons ainsi leur exemple. Déployons autour de nous une sphère d'amour pour nos prochains en apprenant à prier, non pas pour nous, en présentant nos demandes, mais en priant pour les autres, ceux que nous aimons bien sûr, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas et qui sont aussi nos frères. Ainsi, notre Église poursuivra sa route, celle tracée par le Christ notre Seigneur, qui est notre chemin de vie. Amen.